Studio Tamani, voici les informations en français.
Jeudi 21 mars 2024, il est exactement 17h dans ce studio, même heure à Tomiya. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Des réfugiés burkinabés affluent vers les régions de Bandiangara, Douanza et San, au centre du pays. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires, multiplie des initiatives pour leur prise en charge. La journée mondiale des eaux et forêts a été célébrée ce 19 mars à Bamako. Selon les autorités, cette journée permet aux acteurs de développer des stratégies pour la préservation des forêts. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme inquiètent la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Les deux structures entendent intensifier la sensibilisation pour endiguer le fléau. À la présentation de ce journal, Hamsetou Touré. Depuis plus de 3 mois, des réfugiés burkinabés affluent vers le Mali. Ils seraient estimés aujourd'hui à des milliers selon les services chargés de leur accueil. Ces burkinabés qui fuient l'insécurité dans leur localité s'installent principalement dans les régions de Bandiangara, Douanza et San. Une commission a été mise en place par le gouvernement du Mali et ses partenaires pour l'accueil et la prise en charge de ces réfugiés. Le point avec Juliette Koulibaly avec le concours de nos correspondants.
Dans la ville de San, ils sont plus de 800 réfugiés burkinabés. Ces personnes ont quitté les localités de Nouna, Djibasso, Barani, Banankoro, Goumblé, entre autres au Burkina Faso. Une centaine d'autres sont aussi à Tomiya. Pour Mohamed Ouedrago, représentant du consul du Burkina Faso à San, ces personnes qui ont trouvé refuge dans la région de San manquent de tout. Ils affirment qu'ils ont le plus besoin d'abri et d'assistance alimentaire ainsi que sanitaire. Des réfugiés burkinabés sont également signalés à Koro dans la région de Bandiangara. Selon le service local du développement social, la ville compte à ce jour 21 mars 2024 plus de 9000 personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. Il ajoute que ces réfugiés n'ont pas de site d'hébergement. Chacun se cherche un logeur dans la ville qu'ils ne connaissent pas. Au ministère de la décentralisation, on affirme qu'une commission a été mise en place avec le concours des partenaires pour soutenir ces réfugiés au Mali.
Pour une meilleure prise en charge de ces réfugiés, la commission chargée des réfugiés à Tomiya a procédé à un recensement. Son point focal, Fanta Bokoum, affirme que la cinquantaine de ménages enregistrés seront soutenus par le HCR et ses partenaires. Elle réagit au micro de notre correspondant, Issiaka Koulibaly.
Il y a parmi eux de nouveaux venus. Certains sont là depuis 6 mois, d'autres moins de 3 mois. Nous avons reçu nos partenaires du CNCR et du HCR au mois de février dernier. Nous avons pu enregistrer ensemble 56 ménages. Ils ont pu bénéficier du statut de réfugié et des documents qui leur permettent de faire des opérations en toute quiétude. S'agissant de la prise en charge de ces 56 ménages, soit 181 personnes, nous nous appuyons sur notre partenaire le HCR, qui à son tour démarche d'autres structures, fait un plaidoyer pour soutenir tous ces réfugiés.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Je l'annonçais dans les titres, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme préoccupe la Chambre du commerce et d'industrie du Mali. En partenariat avec la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, elle a organisé un atelier de sensibilisation et d'information à l'intention de ses employés et des opérateurs économiques. L'activité entre dans le cadre global de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les détails avec Lala Aïcha Walet Infa.
La direction de la Cellule nationale des traitements des informations financières et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali entendent jouer leur partition dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Idrissa Mahamar Haïdara, directeur de la CENTIF.
La CENTIF a une mission fondamentale qui est d'analyser les dénonciations dans ce cadre-là. Mais la loi ayant été réformée dans ce cadre, nous sommes en train de sensibiliser tous les acteurs pour qu'ils puissent souscrire à leur devoir de déclaration de bénéficiaires effectifs dans les conditions les plus idoines.
La vice-présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali exhorte les travailleurs de la Chambre et les opérateurs économiques à se considérer comme des acteurs dans la lutte contre ces phénomènes qui tuent l'économie nationale. Dr Cissé Dita Dem.
Moi, je pense que ça peut aider parce que souvent, sans même le vouloir, peut être au milieu d'un circuit terroriste. Donc si les opérateurs économiques sont déjà avertis, ça peut beaucoup les aider.
Selon les deux structures, les activités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans un pays peuvent avoir des répercussions négatives graves au-delà de ses frontières.
Autre titre de ce journal, la Journée mondiale des eaux et forêts a été célébrée ce 19 mars à Bamako. L'occasion a été saisie par les responsables de la Direction nationale des eaux et forêts de présenter le bilan des activités de l'année 2023 et les programmes pour 2024, selon Général Kanouté Fatoumata Akone, inspectrice générale des eaux et forêts. Cette journée permet aux acteurs de développer des stratégies pour la préservation des forêts. Elle est réagie au micro de Cita Sidibé.
L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est la réunion du bilan 2023 et la programmation 2024. Donc c'est mieux qu'ensemble, on analyse ce qu'on a fait en 2023, faire notre autocritique et partir sur une bonne base pour 2024. En 2023, il y a eu la création de la Direction générale des eaux et forêts, il y a eu la dotation du service en moyens roulants, moyens informatiques, matériel de bureau, il y a eu la mission de protection de la faune et des ressources forestières, il y a eu aussi des missions de lutte contre les agressions. C'est une lutte implacable qui est vraiment engagée pour lutter contre toutes les agressions de nos domaines forestiers et fauniques. Pour 2024, on compte travailler déjà sur la création des services régionaux et subrégionaux des eaux et forêts et leur opérationnalisation. Il y a des missions de contrôle qui seront intensifiées.
Sidio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
La cola est beaucoup appréciée dans la tradition africaine. Elle est utilisée dans les cérémonies de mariage, de baptême et bien d'autres événements. En plus de son rôle essentiel dans nos cultures et relations sociales, elle a aussi des vertus nutritives. Le dossier de la semaine est signé à Cita Touré.
L'utilisation de la cola diffère selon les besoins dans notre société. Ces quelques consommateurs de cola rencontrés à Bamako nous donnent des raisons d'utilisation.
On achète la cola pour plusieurs causes. Principalement, je l'achète pour les différentes cérémonies telles que le baptême et les démarches du mariage, car le mariage est toujours accompagné par la cola.
Beaucoup de personnes utilisent la cola, car elle est importante et aphrodisiaque. On l'utilise également pour autre chose, comme les procédures du mariage.
La noix de cola est utilisée au Mali depuis la nuit des temps, affirment les traditionnalistes. Dans le panier de cola, on y trouve différentes noix et chacune d'elles a une signification. Les précisions avec Amadou Diallo, traditionnaliste.
Dans un panier de cola, on y retrouve la cola rouge, verte, la blanche et aussi une petite cola qu'on appelle Tarabanaworo. Il y a Yelaworo, Sumworo et bien d'autres. La noix de cola symbolise une famille.
La cola est un fruit importé au Mali principalement à partir de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Selon Hamza Doumbia, un vendeur.
La cola importée au Mali vient de la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Sierra Leone. Les Ivoiriens la mènent tout comme les commerçants maliens.
Des tonnes de cola entrent par semaine dans la capitale. Selon Bourama Sangaré, le président du grand dépotoir de cola à Bamako, estime que le coût du panier est actuellement stable.
Il y a des mois où on fait un chargement de 10 véhicules, parfois c'est 5. Il n'y a pas de moment fixe, mais c'est des grosses remorques qui les importent. Une remorque peut contenir 1000 paniers de cola. Le panier n'a pas de prix fixe. Parfois, il est vendu à 30 000 francs, mais quand ils sont rares, il est vendu à 75 000 francs. Actuellement, les prix sont abordables.
Malgré les vertus qu'elle offre, les spécialistes de la santé estiment que la consommation abusive de la cola peut avoir des effets indésirables. Docteur Kodio, nutritionniste à Gao, nous donne des explications.
Quand elle est consommée de façon excessive, elle peut donner des maux de tête, des agitations et même des palpitations cardiaques, des nausées et des vomissements. Pour les personnes souffrant de maladies cardiaques, cette consommation de cola peut avoir des effets indésirables.
Dr Kodjo ajoute que la consommation de la cola peut provoquer l'hypertension artérielle et l'insomnie.
Un mot de sport dans ce journal. En basketball, Bamako abritera du 23 mars au 1er avril 2024 le tournoi international de l'amitié U18. L'initiative est de la Fédération malienne de basketball. Outre le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Tunisie participeront à la rencontre. Objectif, préparer les sélections nationales U18 filles et garçons qualifiés pour la Coupe du Monde et l'Afrobasket de leur catégorie. En football, un match amical opposera les Aigles du Mali et les Mourabitoun de la Mauritanie le 22 mars à Marrakech au Maroc. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2025 et le Mondial 2026. À présent, retrouvons Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Sékou, alors quel thème sera abordé dans le Grand Dialogue de ce soir?
Bonsoir Amzeto, aujourd'hui nous vous proposons la deuxième partie du débat intitulé « Quel avenir pour l'Alliance des États du Sahel ?» Cette seconde partie sera consacrée aux questions du public adressées à nos invités qui sont au nombre de trois, Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique, Célia Dalmeida de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et Abdul Wahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali.
C'est noté et pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani, téléchargeable sur Play Store. Et c'est ce qui referme ce journal qui vous a été présenté par Hamsidou Touré. Tout de suite, le magazine Tous les enfants du Mali. La journée mondiale de la trisomie 21 a été célébrée ce 21 mars. Chaque année, environ 3000 à 5000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique selon les Nations Unies. Au Mali, il n'y a pas de données concernant le nombre d'enfants atteints de cette maladie selon la Direction nationale de la santé. Mais l'association malienne de la trisomie 21 compte plus de 200 enfants porteurs de cette maladie. Elle déplore la non-implication de l'État dans la prise en charge médicale et éducative de ces enfants. En rediffusion, c'est la thématique abordée aujourd'hui dans le magazine Tous les enfants du Mali. Une présentation de Imran Akilou Maïga.
Troubles du développement, nez et oreilles courts, visage aplati. Voici tant de séquelles que la trisomie 21 laisse chez les patients. Le docteur Guida Landouré, médecin à l'hôpital Point G, explique que la trisomie est une maladie génétique qui est causée en grande partie par la mère.
La trisomie 21 est une maladie génétique qui se caractérise par un chromosome surnuméraire, le chromosome 21. Normalement, nous avons tous 46 chromosomes. Nous recevons 23 de la maman et 23 du papa. Malheureusement, au niveau du chromosome 21, au lieu que les patients reçoivent un chromosome 21, ils reçoivent deux. Et très généralement, ça vient de la maman.
Madame Boiré Aïsetasso est la mère d'un enfant trisomique âgé de 15 ans. Selon elle, être mère d'un enfant trisomique n'est pas chose aisée. Il faut s'armer de beaucoup de courage car ils dépendent à 100% des parents, explique-t-elle.
Ce n'est pas du tout facile. Certains disent que c'est l'œuvre des djinns. D'autres disent que ce n'est pas des enfants humains. Leur santé est aussi très fragile. Se déplacer avec eux n'est pas chose aisée, surtout pour les amener à l'école. Si tu n'as pas de moyens de déplacement, c'est très compliqué. Dans la société, la cohabitation avec les autres enfants est aussi difficile, voire beaucoup compliquée. Même aller aux toilettes est difficile pour eux. Moi, je peux dire que ma fille est intelligente et elle comprend les tâches qu'on lui confie. Seulement, elle a des problèmes d'élocution.
Difficile d'établir ou d'obtenir un chiffre exact des enfants porteurs de la trisomie 21 au Mali. Mais l'association malienne de trisomie 21, qui existe depuis 2017, a pu identifier 257 enfants trisomiques. Elle a pour objectif de minimiser les contraintes et les difficultés que rencontrent ces enfants. Cependant, les responsables déplorent la non-implication des autorités dans la prise en charge de la maladie. Madame Cissé Aïssata Diané Semega est la présidente.
Il n'y a pas beaucoup de centres. Si l'État pouvait nous accompagner pour donner un centre à chaque commune, donc là, ça sera l'idéal. Mais dans le cas contraire, que chaque rive puisse avoir un centre spécialisé, qu'on puisse les inclure avec les autres enfants. Ils ne sont pas contagieux. On ne peut pas dire qu'il y a une prise en charge concernant la trisomie au Mali. Parce que là, d'abord, il faut même connaître qu'il y a combien d'enfants trisomiques. Il n'y a même pas de base de données concernant concernant les enfants trisomiques et nous n'avons pas de médecins spécialisés.
Un enfant trisomique est un enfant qui a des besoins particuliers et doit bénéficier d'un accompagnement individualisé. C'est pourquoi leur prise en charge scolaire peut être complexe. À Bamako, il existe un centre spécialisé pour ces enfants. Ses responsables mettent l'accent sur l'autonomisation. Madame Fofana Mariam Gakou est éducatrice dans ce centre.
On les apprend à écrire, à lire, à faire des dessins, surtout l'automatisation. L'automatisation, ça veut dire broussaille des dents, fermeture des boutons, l'attachement des lacets de chaussures. On n'a pas beaucoup de matériel. Parce que pour eux, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu montres.
Il est difficile de trouver des enfants trisomiques à l'intérieur du pays, car ils sont généralement renvoyés vers la capitale pour qu'ils puissent être mieux préparés afin de faciliter leur intégration.